L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, en rediffusion à 18h. Une émission qui reçoit une fois par mois le réseau paysan et rural CIVAM du Finistère. Ses adhérentes et adhérents viennent nous parler de leur quotidien agricole quand ils sont agricultrices ou agriculteurs. Il y a aussi d'autres sujets, comme de la recherche. Aujourd'hui, on s'en friche pas du tout. Bon, piètre jeu de mots, je vous l'accorde. Si ça se trouve, j'ai déjà fait ce jeu de mots lorsque nous avons traité ce sujet avec l'anthropologue Amélia Witsch il y a quelques temps. Vous pourrez réécouter l'émission sur les friches agricoles. Et donc, aujourd'hui, on revient sur cette question, mais en presqu'île de Crozon, avec une autre actrice de cette étude en friche. Alors, en friche, ça s'écrit A-N-F-R-I-C-H-E. Elle s'appelle Charlotte Guillet. Et c'était le sujet de son stage au CIVAM, plus précisément le lien entre friche agricole et relocalisation de l'alimentation en presqu'île de Crozon. Elle va nous faire part des résultats de son étude, même si elle n'a pas fini de rédiger son mémoire. Avec elle, il y a aussi Sophie Pathé, animatrice coordinatrice du CIVAM du Finistère. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Véronique.
Bonjour.
Alors Charlotte, ou Sophie d'ailleurs, un mot pour repréciser ce qu'est le projet en friche en général.
Alors le projet en friche, il est effectivement adossé à la thèse que mène Amélia Witsch sur les friches de Moëlan-sur-Mer. Et il a pour but de caractériser les friches littorales. N'hésite pas à me compléter, hein, Charlotte.
Ouais, les friches littorales et puis les regards et les usages qui y sont associés. Alors elle travaille effectivement plus dans le sud Finistère, mais en friche finalement il y a plusieurs zones dans le Finistère, dont la presqu'île de Crozon, que du coup c'est le territoire que j'ai étudié et qui n'avait pas vraiment été étudié avant. Et dans ce programme, il y a aussi de l'écologie avec d'autres chercheurs du coup en écologie. Donc ça se complète un peu entre l'approche anthropologie et l'approche écologie.
Il y a plusieurs organismes de recherche,
ouais,
hein,
c'est ça. Nous, on l'a co-encadré avec plusieurs autres partenaires de la recherche, de l'INRAE, Françoise Vertès, du CNRS avec Alix Levin et puis effectivement l'école des hautes études en sciences sociales
EHESS.
Voilà, c'est ça. J'ai peut-être oublié d'autres partenaires. Et l'UBO,
ouais, parce que moi je suis étudiante en master de géographie à l'UBO, donc on est aussi rattaché à ça.
D'accord, donc c'est en tant que géographe, parce que ça pourrait être de l'anthropologie aussi, mais là c'est plus le regard de la géographe.
Géographie, et puis après, dans la géographie, il y a une discipline qui se rapproche plutôt de la géographie humaine, où ça va se rapprocher de l'anthropologie, où on va regarder aussi un peu les phénomènes humains. Voilà.
Et là, quand on parle de friche, dans ce projet en friche, on parle de terrains qui ont été autrefois agricoles et qui ne le sont plus, ou c'est autre chose, c'est plus large que ça ?
Oui, effectivement, des qui ont été anciennement cultivés ou pâturés, etc., et qui maintenant sont abandonnés. Finalement, sur la presqu'île de Crozon, c'est surtout sur l'ouest du territoire que les friches agricoles se situent, parce qu'il y a eu une déprise agricole assez précoce et assez intense dans l'ouest de la presqu'île.
Donc il y avait une activité agricole, quoi.
Oui,
vraiment à la pointe. Hein,
c'est oui, ça. Quand on regarde les photos aériennes des années 50, même en fait ça a duré jusqu'aux années 2000, début des années 2000, là ça a commencé vraiment à s'étouffer. Mais finalement, oui, ça s'était cultivé dans tout le Cap de la Chèvre, à Roscanvel. C'était des modèles de fermes autosubsistants. Il n'y avait pas chacun produisait un peu pour soi. Il y avait des échanges, un peu de vente, mais c'était en autosuffisance. C'était plutôt de l'agriculture vivrière.
Et donc, polyculture, élevage, on faisait un peu de tout, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on cultivait ? Qu'est-ce qu'on élevait ?
Alors, il y avait... Chaque ferme avait... une vache, c'était bien, mais deux, trois vaches, quatre vaches, ça commençait à être quelqu'un qui était assez aisé. Il y avait aussi un cochon, un ou deux cochons. Il y avait aussi un peu d'ovins, mais... un peu moins, mais globalement, voilà, c'était les vaches, les cochons. On cultivait aussi des céréales pour nourrir, mais mais plus partiellement. Et puis il y avait aussi les landes qui étaient utilisées, en fait, qui étaient fauchées à la fois pour faire de la litière pour les animaux, pour faire aussi du bois, enfin le bois de chauffage, et c'était aussi pour nourrir, par exemple, les chevaux. Il y avait aussi un cheval. D'ailleurs, c'était un signe un peu de richesse à l'époque, parce que c'était une force de travail, le cheval, aussi une force motrice pour se déplacer, etc.
Des poules, sans doute,
j'ai cité les principaux animaux, mais voilà, oui, c'était un modèle en polyculture élevage.
Et un peu de légumes quand même, voilà. Est-ce que la terre était propice, ouais.
Dans l'ouest de la presqu'île, on dit que les terrains sont plutôt acides, d'ailleurs, comme en témoigne la végétation qui pousse, donc plutôt de la jonc, etc. Mais il y a quand même certains endroits où la terre est quand même productive. On peut quand même avoir son jardin potager, et oui, chaque ferme avait à produire ses propres légumes, etc.
Et pas de chèvres au Cap de la Chèvre.
J'ai pas trop entendu de témoignages où il y avait des chèvres. Peut-être qu'il y en a eu, mais c'était pas dominant, en tout cas.
Et donc, comment ça se répartissait ? Est-ce que c'était, je sais pas, quelle était la surface moyenne de ces exploitations ? Enfin, c'est même pas des exploitations, de ces petites fermes, quoi.
Il me semble que, ça dépend à quelle période on parle, mais là, les dernières exploitations jusqu'aux années 2000, j'ai rencontré une ancienne agricultrice de Roscanvel. Elle avait 4 hectares, il me semble. Donc ça reste des petites fermes. Et encore, elle était l'une des plus grosses de Roscanvel. Avec des prairies, un peu de céréales aussi. Mais c'était plutôt des petites fermes. En fait, le foncier, finalement, il est, quand on regarde le cadastre, on se rend compte qu'il est très 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 morcelé. Justement, c'est aussi ça favorise aussi l'enfrichement, dans le sens où puisque c'est très morcelé et que chaque parcelle est en indivision en général, donc appartient à plusieurs personnes.
Il y a des problèmes de succession.
Voilà, des successions qui sont pas réglées, etc. Donc ça favorise. Pas l'abandon, mais ça fait que personne sait à qui ça appartient et on s'en occupe plus vraiment.
C'est compliqué, en fait, comme on dit.
Oui.
Et physiquement, est-ce que c'était délimité par des murets, comme par exemple en Cap-Sizun, ou est-ce que c'était de la haie ?
Il y avait des talus, des haies. D'ailleurs, il y a certaines zones de la presqu'île qui n'ont jamais été remembrées, parce que les agriculteurs sont partis avant, tout simplement. Il n'y avait déjà plus. Tout le Cap de la Chèvre, ça n'a pas été remembré, parce qu'il n'y avait déjà plus d'agriculteurs. Roscanvel, un petit peu. Et puis, par contre, l'est de la presqu'île, Telgru, Cargol, là, ça a vraiment été remembré. Mais il y a des murets sur le Cap de la Chèvre, dans les Landes, qu'on voit des fois un peu dépassés, comme dans le Cap Sizun. Et ça, en fait, moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'était au moment de... avant la Révolution française, il y avait les communs de village, on appelle ça les dallars en breton, qui étaient donc des à la fois les lavoirs, les fontaines, etc. Mais ça correspondait aussi à des terres vaines, incultes, qu'on appelait, donc souvent des landes, qui étaient partagées entre différents agriculteurs du hameau. Et ces terres-là, en fait, au moment de la Révolution française et quand la propriété privée a commencé à apparaître, elles ont été départagées parmi les gens du hameau. Pour les départager, on a édifié ces murets en pierre sèche qu'on peut voir dans le Cap de la Chèvre.
Et donc, ces petites maisons qu'on voit encore, ces petits hameaux si ravissants de la presqu'île, n'étaient pas forcément que des maisons de pêcheurs. Ou alors les deux, ils faisaient les deux, peut-être, pêcheurs et paysans.
Oui, il y avait cette double activité, notamment dans le Cap de la Chèvre. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit là, c'est les pentis, etc. Mais aujourd'hui, en fait, c'est des maisons qui ont été rénovées. Et en fait, il y a vraiment eu un mitage entre... au moment des successions, souvent les gens, les parents donnaient à un enfant, par exemple, le bâti et à un autre la terre. Et donc ça fait qu'aujourd'hui tout est séparé, quoi. Il y a plus de le bâti et la terre sont plus liés.
Et quand est-ce que donc ça a commencé tôt ce mouvement d'enfrichement, c'est ça apparemment
Oui, ça fait un certain temps. Je pense que ça a vraiment commencé à s'accélérer à partir du moment où les derniers agriculteurs ont arrêté et que ça n'a pas été repris. Donc juste un peu avant les années 2000, fin des années 80-90, là ça a commencé vraiment Enfin, il n'y avait plus du tout d'usage agricole. Parce que maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus que du pâturage plutôt par des chevaux, par des gens qui ont des chevaux pour le loisir et de la fauche, etc. Et il y a quand même, bon, il reste quelques exploitations dans l'Ouest, mais globalement, il y a grand chose.
Sophie Pathé, il n'y a pas d'adhérents du CIVAM en Presqu'Île aussi peu, c'est ça?
Effectivement, sur la partie Ouest, on en a assez peu, ouais. Mm-hmm. Donc, ouais, c'est un peu ce que décrit Charlotte, en fait. L'enfrichement, ça, bah, c'est pas simple en fait aussi de remettre en état des friches, et donc effectivement ça favorise pas. Et puis il y a toute une réglementation aussi, hein, urbanistique, avec la loi littorale, où on peut pas faire ce qu'on veut, parce que en fait souvent d'installer un élevage ou même des serres avec en maraîchage, la loi littorale ne le permet pas.
Et c'est parce que vous avez été confrontée à ces problèmes-là de la part de porteurs ou porteuses de projets que le CIVAM s'est intéressé, a voulu mener cette étude, ou il y avait d'autres raisons?
Nous, ça reste toujours dans notre travail qu'on fait sur la réappropriation en fait, des savoirs sur les végétations semi-naturelles. Et effectivement, en fait, les friches sont, ben, en tout cas, les friches font partie de souvent ces végétations que récupèrent certains éleveurs et éleveuses. Et donc, du coup, effectivement, ça, c'est très questionnant, vraiment sur, en tout cas, techniquement, pour réhabiliter une friche, mais aussi sur aussi ce que c'est qu'une friche, en fait. Et tous les questionnements qu'il y a sur la biodiversité, sur est-ce qu'effectivement faut tout raser et remettre à zéro, est-ce qu'il faut garder en l'état, est-ce qu'il faut, comment on peut aussi le maîtriser, ben voilà, comment ça peut réintégrer un système agricole.
Mmh. Et d'ailleurs, c'est le sujet du mémoire de Charlotte Guy. Charlotte, alors, est-ce qu'il y a des spécificités? Oui, on sait, propres à la presqu'île de Crozon, à part cette histoire de succession, qui font que finalement, il y a eu plus de friches peut-être qu'ailleurs, ou c'est plus compliqué en tout cas de se poser la question de la réutilisation de ces friches.
Bah, ce qui complique la chose, et Sophie l'a dit, c'est cette question notamment des contraintes urbanistiques. Il y a la loi littorale et il y a tout un tas derrière de protection foncière, etc. Et ensuite, ouais, en fait, là, c'est ce que j'expliquais aussi tout à l'heure, c'est que on peut éventuellement réinvestir des friches, recultiver ou faire du pâturage, etc. Mais il y aura cette question du bâti qui va se poser dans quasiment tout le cap de la Chèvre. Hein, c'est des espaces proches du rivage ou des espaces naturels remarquables. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on ne pourra pas construire le moindre bâtiment agricole, mais même une serre.
Donc, ça ne sera pas possible. Ouais. Parce que c'est une serre, on peut éventuellement quand même dire que c'est du temporaire. Enfin, c'est pas du durable. Enfin.
Ouais, mais finalement, c'est assez strict dans ces endroits-là. Il y a une politique foncière très stricte. Il y a aussi le conservatoire du littoral qui est très présent dans toute la zone de l'Ouest, qui a acquis beaucoup de terrain. En fait, les zones agricoles sont au milieu des zones naturelles et voilà, il y a beaucoup de contraintes. Il y a des dérogations possibles, mais c'est des dossiers assez lourds et il faut justifier un projet derrière.
Et on ne peut pas habiter sur place, ça c'est quasiment sûr.
Et il y a encore plus la question du logement de fonction.
Même pas une yourte, enfin, même pas.
Non, la question des habitats légers, justement, les stécales, qu'on appelle ça comme ça, finalement, encore une fois, ça rentre pas dans la liste des exceptions qui pourraient être autorisées. Donc non, c'est très compliqué. Donc en fait, finalement, après, il y a des cas un peu exceptions. Par exemple, il y a la ferme de Kerguillet sur la pointe de Dinan. Mais en fait, là, c'est vraiment... elle est installée sur les terrains du conservatoire du littoral, qui a, lui, voulu installer une ferme à cet endroit-là. Oui. Donc là, c'est lui qui a mobilisé...
Avec des moutons, plutôt, je crois. Hein,
oui, des moutons, exactement. Mm-hmm. Donc là, c'est le conservatoire qui a donc acheté ces terrains, qui a préempté aussi sur la vente de la maison, du coup, où vivent actuellement les fermiers. Là, il a eu une force de frappe parce que c'est un acteur important et que voilà, il a pu utiliser son droit de préemption. Mais des porteurs de projets, surtout en plus qui viennent pas du coin, ils auront pas ils ont pas ce pouvoir-là de pouvoir préempter sur une vente et aussi notamment par rapport à la question du prix.
Mais le conservatoire n'a pas envie de mener d'autres expériences. Enfin, au regard de cette expérience-là, le bilan est pas suffisamment positif ou...
Si, le bilan est positif, d'autant plus que le conservatoire, il est propriétaire du foncier, mais il n'est pas gestionnaire de ce foncier. Il délègue la gestion aux communautés de communes. Et là, en l'occurrence, il y a une convention de mise à disposition des terres, donc, donc les agriculteurs vont pouvoir entretenir les terres, donc ça les arrange finalement parce qu'ils réouvrent le paysage, voilà. Mais en fait, c'est un gros travail de regroupement du foncier. Avant de pouvoir installer des agriculteurs, ils ont fait un travail monstrueux d'aller voir chaque propriétaire, de les contacter, de voir s'ils voulaient vendre.
Donc savoir à qui appartenait chaque parcelle, voilà, etc. Ouais.
En fait, avant de pouvoir constituer une entité foncière cohérente vraiment pour l'installation d'un agriculteur, ça prend beaucoup de temps.
C'est ça, ouais. Oui, parce qu'il faut un minimum de surface pour que ça soit rentable. Quoi.
Voilà. Ouais, et eux, ils voulaient vraiment de l'élevage dans ce cas-là.
Ouais.
Et pour le moment, il n'y a pas d'autre projet d'installer des agriculteurs. Parce que le conservatoire, finalement, lui, son premier objectif, c'est vraiment de préserver les terres de l'artificialisation.
Comme son nom l'indique, hein, il conserve.
Voilà. Donc, ce n'est pas son objectif premier d'installer des agriculteurs. Mais ça a été fait dans plein d'autres endroits. Je pense sur l'île de Quéménès, ils ont installé des agriculteurs. Voilà. Il y a différentes expériences, mais ce n'est pas son objectif premier.
Et des porteurs de projets, il y en a encore malgré tout, enfin, parce qu'ils ne sont pas du coup découragés.
J'en ai rencontré certains qui cherchent désespérément du foncier. Donc là, ils font le boulot qu'a fait le conservatoire, c'est-à-dire qu'ils contactent ils envoient des lettres. Des fois, ils n'ont pas de réponse. Ou des fois, ils vont voir les personnes qui habitent encore en presqu'île pour leur demander si ils seraient d'accord au moins de louer le terrain. Mais il y a des gens qui n'ont pas forcément envie ou qui ont envie de vendre un peu plus cher ou alors qui sont très attachés à leur terre. Et donc, du coup, ils rencontrent beaucoup de difficultés, mais il y a encore beaucoup de gens qui veulent s'installer, notamment pour, je pense, le cadre de vie. Et puis aussi parce qu'ils ont envie de... Il y a vraiment un projet de vouloir aussi reprendre un peu d'autonomie alimentaire sur la presqu'île.
Oui. Oui, c'est ça. Et la communauté de communes de presqu'île de Crozon, Aulne-Maritime, quelle est sa position globale sur ces friches?
Eh bien, donc là, actuellement, il y a un PAT, qui est un plan alimentaire de territoire, qui est en cours.
Ouais.
Voilà. Donc c'est Lorena Tétio de la Comcom de Crozon qui s'en occupe. Le PAT, ça balaye énormément de choses de l'amont à l'aval. Donc en général, vu le temps et le budget, on n'a pas le temps de tout traiter. La question foncière, effectivement, ils s'intéressent aux friches et ils ont vu la fameuse carte de la DDTM là, qui recense un peu toutes les friches dans le Finistère. Donc ils s'y intéressent, mais ils sont conscient et bloqué par les contraintes que j'ai évoquées avant, les contraintes urbanistiques. Ils s'y intéressent parce que, en fait, ça représente vraiment une surface importante. Mais après, encore une fois, il y a ce problème du bâti, ce problème de pouvoir...
Identifier les propriétaires, tout ça.
Oui, voilà. Ouais. Parce que des porteurs de projets, ils sont présents, il y en a, mais après, ils ont du mal aussi à faire le lien entre eux, je pense. Et surtout quand c'est des personnes non issues du monde agricole, ils n'ont pas leur propre réseau.
C'est là que le CIVAM pourrait intervenir, Sophie. Ouais. Non ?
Si, tout à fait,
ouais. Oui, pardon Charlotte. Ouais.
Non mais voilà. Donc effectivement, c'est assez compliqué pour eux, mais il y en a qui... Et puis il y en a certains aussi qui ont quand même des héritages de leurs parents qui étaient dans le coin, qui ont quelques terres, donc ils vont pouvoir commencer par quelque chose. Et puis souvent, c'est quand même des projets qui ne recherchent pas beaucoup de surface. C'est des toutes petites exploitations et des modèles plutôt alternatifs. Enfin...
Et sinon, les chèvres qui ont été mises sur, je ne sais plus, je crois que c'est vers Camaret, il y a des chèvres qui ont été mises sur les falaises pour l'entretien. Là. Enfin, c'est de l'entretien, c'est peut-être pas de l'exploitation, de l'élevage proprement dit, c'est ça?
C'est de l'éco... oui, on peut dire, il y a plusieurs terminologies, mais éco-pâturage, on parle des... Je n'ai pas entendu... Je sais qu'il y a de l'éco-pâturage sur la presqu'île.
Ça ne fait pas partie du projet en friche de...
Non, ouais. C'est vrai que j'ai pas eu le temps non plus de m'intéresser à tout ce qui se passait, mais j'ai pas eu de contact par rapport à ça.
Ouais, là on était vraiment sur des projets d'exploitation agricole pour la production, quoi.
Pour
vraiment.
La production alimentaire, ouais.
Oui, c'est ça.
Alimentaire, oui. Ouais, pas pour dans entretien ou pas pour autre chose, quoi.
Oui.
Ouais, ouais. Alors, quelles sont les solutions que vous avez identifiées, ou les évolutions qui seraient envisageables pour favoriser la récupération, la remise en culture des friches, peut-être pas toutes, mais...
Ben déjà, je pense que ça serait de reprendre la fameuse carte de la DDDM, des friches potentielles, et de réaliser un inventaire plus précis en se rendant sur le terrain, de vraiment identifier concrètement quelles seraient les parcelles qui pourraient être mises en culture, en prenant en compte aussi les différentes contraintes urbanistiques, savoir si on est en site classé, site inscrit, toutes ces choses-là. C'est important de le savoir pour pouvoir savoir ensuite comment on va pouvoir peut-être installer du bâti, quelles dérogations on va pouvoir auxquelles on va pouvoir faire appel. Donc c'est vraiment cartographier précisément ça, cartographier aussi le bâti, les hangars, les anciens. Parce qu'il y a du bâti qui est normalement où l'usage agricole doit être maintenu. Donc il y a encore certains hangars, ça c'est une personne de l'urbanisme, de la Comcom qui m'avait dit ça. Donc ça c'est aussi important de repérer le bâti. Et puis après, je pense qu'il y a besoin aussi sur cette question des friches de pas ignorer que finalement, alors il y a remettre en culture et il y a des choses intéressantes qui peuvent être faites, mais il y a aussi d'autres usages qui existent dans ces friches. Il y a d'autres personnes il y a plein de personnes qui interagissent en fait sur ces terrains-là.
Oui, par exemple, qu'est-ce qu'ils font ?
Par exemple, il y a il y a les chasseurs que j'ai rencontrés qui se créent des chemins dans les friches, mais qui ont aussi besoin de la friche parce que c'est l'habitat du gibier qui chasse. Il y a les propriétaires de chevaux qui en général s'installent sur des terrains qui partent un peu en friche, mais ça permet de maintenir quand même une pression de pâturage suffisante pour pas que ça reste ouvert. Il y a aussi des associations, par exemple à Roscanvel, il y a une association qui défriche autour des éléments de patrimoine, parce que pour eux, la friche elle est importante, mais il y a aussi eux ils veulent préserver ces éléments de patrimoine.
Comme des moulins ou des lavoirs, tout
ça. Des lavoirs, etc. Il y a aussi entre les friches, il y a aussi des jardins potagers. Enfin, chacun a un peu son usage, en tout cas à proximité des friches. Et finalement, je pense que s'il devait y avoir des projets de revalorisation pour l'agriculture, il faudrait vraiment concerter l'ensemble de ces personnes-là et que ça soit vraiment plus participatif et pas que ça parte d'en haut, entre guillemets, que ça soit collectivement pensé et discuté.
Donc à l'échelle de la Comcom, enfin ça pourrait être la Comcom qui...
Oui, ça pourrait être la Comcom. C'est une entité intéressante. Alors en sachant que la Comcom, elle a aussi du coup les communes. Il y a une grande différence entre les dynamiques dans l'ouest de la Presqu'île, plus vers. C'est encore différent Telgruc-sur-Mer et Argol, et puis c'est différent le Four, Osnay.
Ah oui, même à l'intérieur de la Presqu'île, il y a des grosses différences.
Il y a des entités différentes, mais en tout cas, ça serait intéressant de faire quelque chose d'assez concerté, pour essayer aussi peut-être d'éviter qu'il y ait des gens qui se mobilisent contre le projet comme ça s'est passé à Moëlan-sur-Mer, faire quelque chose d'un peu plus participatif et qui intègre les différentes parties prenantes.
Et le projet en friche, il en est où ? Il est terminé ? Il va se continuer encore ou...
C'est vrai qu'on a oublié de signaler que ce projet, il était financé par la Fondation de France.
Oui, c'est important.
Oui, et non, il n'est pas terminé. Donc il y a eu différents travaux, comme tu l'as cité tout à l'heure, en écologie, de caractérisation écologique en fait.
Oui, parce qu'il y a aussi une biodiversité bien sûr.
Ouais. Et puis il y a d'autres chercheurs, je sais qu'en tourisme, littoral, qui vont je n'ai pas la date
non.
de fin,
mais c'est pas fini.
Ouais.
Et c'est une question qu'on n'a pas abordée, mais elle était, enfin en fait vous y avez répondu, mais en fait il y a pas de pression sur ces friches là, il y a aucune menace de construction. Enfin on est d'accord, hein, ça risque pas jamais de devenir des des resort hôtels avec vue sur mer.
Non, c'est en plus c'est des zones dans le PLU, c'est des zones classées naturelles ou agricole, donc non, il n'y aura pas. Par contre, des fois, il y a des zones, par exemple, classées naturelles, mais à vocation de loisirs, où par exemple, ça va être un parking relais, surtout dans la Presqu'île, où il y a une fréquentation touristique importante. Dans le Cap de la Chèvre, par exemple, certains terrains, ça va être qui appartiennent au conservatoire, mais où il y a une aire de stationnement temporaire qui est autorisée.
Un genre de prairie, en général,
Une prairie, qui est fauchée, et où il y a des voitures qui, qui viennent se garer.
Ah oui, ça pourrait devenir un accrobranche, enfin, s'il y avait des arbres.
Non, peut-être pas. Peut-être ouais. pas, mais en tout cas, voilà, il y a des. Mais non, ça sera assez protégé, surtout maintenant avec. Enfin, il y a aussi le ZAN, la zéro artificialisation nette, qui est en train d'arriver. Donc, oui. Non, ça, elles, en tout cas, elles ne sont pas prêtes d'être urbanisées.
Ouais. Et Sophie, alors, il y a une causerie paysanne qui est organisée sur ce thème, c'est ça
Oui, ce soir, on continue à parler des friches, la reconquête des friches. Donc, qui est ouvert à tous à Trégarvan à 20h sur une ferme de Gaël Kerléguer. La ferme de Gaël Kerléguer.
Qui est les chèvres du Garvan.
Voilà.
Là, il y a les chèvres pour le coup. Oui. Loin du cap de la chèvre.
On va parler des idées reçues sur les friches.
C'est gratuit, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Causerie paysanne, ça sera la dernière de la saison, c'est ça
Ouais. De la saison, non, il y en aura encore à partir de septembre.
Ah ouais, on a
encore
c'est plus la même saison.
Oui, c'est vrai. Pour vous, c'est pas la même saison.
C'est vrai. Eh bien, justement, alors merci à toute l'équipe du réseau paysan CIVAM du Finistère pour cette nouvelle belle saison d'émissions qu'on espère continuer à la rentrée. Et en attendant, vous pouvez bien sûr réécouter toutes les émissions qu'on a réalisées donc avec le CIVAM sur le site internet de Radio Évasion. Merci.
Merci.